Bienvenue, chers auditeurs, sur les voies de la franchise. La franchise et le commerce associé sont au cœur de notre quotidien. C'est pourquoi, sur les voies de la franchise, je donne la parole à tous les acteurs de ces réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont un jour décidé de créer leur business. On y parle entrepreneuriat, transmission, entraide, marketing, développement commercial. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Claire Lanneau, qui est la fondatrice de Babichou Service, il y a un peu plus de 20 ans, et qui gère aujourd'hui avec succès un réseau de 80 agences, de plus de 80 agences, je crois, et qui cette année a été classée la première agence
de garde d'enfants à domicile.
Voilà. Eh ben, je vous laisse la parole et puis présentez-nous un peu votre histoire.
Bonjour. Alors merci de me donner la parole. Donc effectivement, Babichou, c'est un peu l'histoire d'une maman qui trouvait pas nounou à son pied. Il y a déjà plus de 20 ans en effet. Bon, qui travaillait en tant que cadre dans l'IT, enfin on disait l'informatique à l'époque, et qui avec une vie normale, avait des difficultés à trouver des solutions de qualité. Alors, quand on travaille un peu dans mode projet, dans l'informatique, on est intéressé par tout ce qui est qualité, process. Et donc, l'idée, c'était peut-être tout simplement de reproduire ça dans un métier où on ne l'attendait pas, qui était un métier en devenir, hein, qui ne s'appelait pas forcément les services à la personne, qui est devenu un beau secteur aujourd'hui. Et donc, l'idée était effectivement de processer l'aspect recrutement d'une part et l'aspect suivi des familles, des clients d'autre part, en ayant un service donc de qualité, mais très réactif. Voilà.
Donc vous avez commencé par le process en fait, dans cette création de ce business, ce passage en fait d'un métier à un autre, et était orienté à ces process.
Ben, disons qu'il fallait un process de recrutement qui soit solide, qui soit aussi reproductible, parce que l'idée c'était quand même de pouvoir assez vite passer à une échelle importante en termes de volume de recrutement et donc d'activité. Et là où peut-être qu'il y avait des pratiques très artisanales, hein, il y avait quelques associations qui existaient ou peut-être même quelques entreprises, j'ai souhaité donner tout de suite voilà, une vision métier avec effectivement un modèle qui puisse être suivi, dupliqué, déjà dupliqué au sein d'une première agence, hein, c'était une entreprise. Alors on n'a pas commencé dans un garage, mais on a commencé dans une loge de concierge.
D'accord.
Donc en bas de l'immeuble dans lequel je vivais, on a mis un coup de peinture et pendant les travaux, on faisait les recrutements dans ma cuisine. Voilà. Mais ça, c'était avant, comme on dit.
Oui, et c'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir
le début. Oui, je me souviens d'avoir recruté des babysitters, notamment pour trouver des gens le soir du 31 décembre, qui est un marché aussi, dans la cuisine de l'appartement au-dessus de la loge. Donc voilà.
Mais, saviez déjà dès le départ que vous vouliez faire un réseau?
Pas vraiment, mais on me l'a proposé au bout de quelques années, parce que bon, on est comme on dit un peu la tête dans le guidon au début, donc on travaille beaucoup, oui. On voit son activité qui se développe. Et je connaissais pas du tout. Alors je connaissais la franchise, mais pour moi la franchise c'était les chaînes, hein, comme voilà, on se promène en centre-ville et on pense aux chaînes. Ce qu'on dit maintenant dans la franchise, être le retail, hein, c'est-à-dire les magasins, etc. Et je savais pas que ça pouvait exister dans les services. Et quelqu'un, je crois, m'en a parlé sur un salon. Bon, cette idée a germé, mais je m'en suis pas vraiment occupée tout de suite. Et à un moment donné, où effectivement les enjeux du marché étaient beaucoup plus prégnants, puisque en fin 2005, 2006, il y a eu le plan de développement des services à la personne avec Jean-Louis Borloo,
oui.
Et ce coup de projecteur qui a été mis sur le secteur, hein, en permettant aux entreprises de rentrer dans le champ des services à la personne, qui était réservé aux associations, aux CCS, enfin au domaine public, comme on sait bien faire en France. Donc cette ouverture aux champs des entreprises, là, m'a permis de débaucher un vrai projet, donc de passer l'activité qui a été montée en association, du coup, au début,
d'accord, hein,
qui a été portée en association, mais en me salariant Et j'en suis très fière, avec aucune subvention publique.
Oui.
Mais des subventions privées, des concours gagnés, en fait. On a gagné des concours qui nous ont permis de financer certains investissements, notamment informatiques.
D'accord.
Bon, donc, ce passage 2006 avec le plan de développement des services à la personne, le premier plan de développement des services à la personne, m'a permis de passer en entreprise et là de créer la société de franchise.
Voilà. D'accord. Et donc, vous aviez déjà plusieurs agences
Non, propre, j'avais qu'une agence.
J'avais qu'une agence.
Alors non, on n'était plus dans une loge de gardien à l'époque. On n'était plus dans une loge de gardien parce que pour le coup, là, on avait un peu utilisé nos réseaux et on avait réussi à trouver des locaux pour le coup en partenariat avec la mairie de Paris, j'avoue, qui m'avait aidé là-dessus à se lancer. Mais on était encore en effectif assez réduit, hein, voilà. On était purement dans l'opérationnel. Et ce qui a été très intéressant là, c'est de commencer à processer, écrire ce qu'on savait faire.
D'accord.
Ce qu'on appelle un manuel opératoire dans la franchise. Hein. Et donc, on a travaillé avec... avec des consultants qui m'ont permis de me poser par rapport effectivement à ce qu'on avait déjà développé, ce qui avait déjà été fait, de l'exprimer, de le mettre sur papier ou sur fichier, et de manière à ce qu'on puisse plus facilement le dupliquer, hein, puisque voilà, la franchise, c'est on va certainement y venir, mais c'est, oui, la duplication d'un savoir-faire substantiel réussi.
D'accord. Donc vous parlez de consultants. Est-ce que quand on crée une franchise, on doit forcément être accompagné de gens qui ont l'habitude de créer ça? Il y a un certain nombre de choses qu'on doit savoir. Donc il y a beaucoup d'aspects droits, beaucoup d'aspects d'organisation, justement, de contrats. Donc ça nécessite d'être accompagné.
Tout à fait. Alors au départ, on avait fait tout nous-mêmes. On avait travaillé avec des organismes qui nous avaient aidés très ponctuellement, hein, comme on peut en trouver parfois dans sa ville ou dans sa région. Mais à un moment donné, le réseau prenait quand même... on avait déjà, dans un second temps, effectivement, je pense, une quinzaine, une vingtaine d'agences. Et à ce moment-là, là, on a fait appel à un cabinet qui nous a permis de faire un audit de ce qui était déjà en place.
Il y a
beaucoup de choses qui étaient positives. Et d'avoir un regard extérieur. Je pense qu'il faut, savoir de temps en temps s'arrêter, regarder ce qu'on a fait, d'où on vient. Hein, comme on dit, on sait toujours... on comprend mieux ce qu'on fait quand on regarde un petit peu en arrière d'où on vient. Et là, ça nous a vraiment permis, avec un audit, de regarder effectivement les besoins du réseau. Bon, en l'occurrence, c'était des besoins qu'on avait déjà pressentis, hein, mais qui étaient des besoins en termes de d'uniformisation, par exemple, de la communication, de mise en place d'une réelle animation d'un réseau, on y reviendra peut-être,
oui,
et aussi de passage à la version 2, je dirais, des documents juridiques, notamment du contrat de franchise qu'on avait, qui était un peu light, on va dire, qui n'était pas forcément dans notre intérêt. Le principe de la franchise étant l'équilibre parfait, il a fallu retravailler ces points-là.
Et votre premier franchisé, c'était... Alors, quelqu'un que vous connaissiez? C'était comment on recrute son premier franchisé?
Pas du tout, mais il est toujours avec nous, et Eric, ta reine, et à Nantes, puisque maintenant il est en multi-franchise. Et il sait très bien le respect que j'ai et l'admiration que j'ai pour lui, puisque c'est vrai que c'est lui qui a pris le premier risque.
Oui. Hein,
parce qu'après tout, une entreprise, elle marche bien, même si on a processé les choses. En franchise, il y a un moment donné où c'est: est-ce que ça va marcher sur une zone, en l'occurrence là c'était en région,
oui,
on est passé de Paris à la région. Et ça a très bien marché. Parce que justement, comme on avait mis en place un certain nombre d'outils et on avait à disposition c'est un formidable savoir-faire, ben on a pu tester assez rapidement. Et puis, en l'occurrence, notre franchisé s'y employait de manière très professionnelle et puis simple. Enfin, je veux dire, il s'agissait tout simplement de reproduire.
D'accord.
Je crois que la franchise, on y reviendra peut-être, mais c'est dans un premier temps, c'est pas toujours évident, mais faire preuve d'humilité, savoir reproduire, et après, on peut amener beaucoup de choses.
Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez appris au fur et à mesure, en fait, de cette construction de réseau? C'est effectivement cette notion de transmission, c'est cette notion de risque, de confiance, de voilà. Quels sont les éléments forts qu'on apprend au fur et à mesure, peut-être par des échecs aussi, peut-être par...
Bien sûr, un peu de tout ça. Je crois que la première chose pour être franchiseur, en tout cas, et même pour être franchisé, il y a un maître mot, moi, qui fait d'ailleurs partie des valeurs de l'enseigne Babichou Service, c'est la confiance.
Oui.
C'est-à-dire que vous faites confiance. Vous acceptez que des entrepreneurs indépendants reproduisent votre savoir-faire. Bien sûr, vous allez être en contrôle, c'est normal, parce qu'il faut contrôler que le service, surtout un service rendu aux enfants, hein, on n'a pas parlé, mais c'est quand même un service à la personne et plus précisément aux enfants, mais il se doit d'être au top niveau. Donc vous devez faire confiance à la personne, et la personne, évidemment, en contrepartie, vous fait confiance. Donc ce que j'ai appris, c'est ce second métier, finalement, alors qui a été un cheminement où il y a eu effectivement à un moment donné des difficultés, même des échecs, on a certains, ça a pu arriver. On a eu aussi à affronter des moments où il était nécessaire pour le réseau d'avancer. Je pense notamment quand on a changé de système d'information.
Oui.
On est passé à un système d'information très local en base Access, je ne sais pas si tout le monde connaît
oui.
ce logiciel, mais qui faisait partie de la suite
de Microsoft. La suite Office. Ouais.
On est passé à un logiciel en mode cloud, avec évidemment beaucoup de fonctionnalités qui étaient formidables, même
ouais.
si on en a demandé plein d'autres. Et ce logiciel s'est imposé comme un des standards du marché. Donc, bon, simplement, à ce moment-là, au moment où on a monté un groupe de travail en interne, il y a eu quand même des réticences. Les Français n'aiment pas le changement.
Ouais.
Ok, et ben même dans les entreprises en franchise, parfois il faut prendre le temps. Et souvent, il faut prendre le temps quand on veut avancer, faire avancer son réseau, et bien de créer des instances où on va pouvoir travailler ensemble sur un nouveau projet. Et c'est ce qu'on a fait à cette époque-là. Et malgré tout, là, on a eu des franchisés qui se sont opposés et qui, malheureusement, n'ont pas suivi sur ce projet.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Ils ont quitté carrément
Ils
la franchise
quitté,
à cause
oui.
de ça.
Mais je les remercie, quelque part, parce que grâce à ça, ça nous a donné, finalement, un nouveau rebond sur certaines zones. Moi, ça m'a permis de recréer, à ce moment-là, des succursales aussi, parce qu'on n'est pas que en franchise.
Oui.
Et ça nous a permis de recoller encore mieux au terrain sur des zones différentes et d'être encore plus crédible, finalement, pour le reste du réseau et les nouveaux franchisés qui arrivaient. Puisqu'on avait non seulement un site pilote, mais X sites pilotes.
Alors justement, c'est cet équilibre entre la franchise et les succursales, c'est un enjeu que l'on voit en fait pour plusieurs réseaux. Plusieurs responsables de réseaux se posent aussi cette question de dire finalement quel serait le juste équilibre. Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il est dépendant peut-être de type de franchise ou du franchiseur ou des franchisés? Quel est votre point de vue là-dessus?
Alors, on n'a pas fait de stratégie au départ en disant on aura tant de succursales et on aura tant de franchises. En revanche, notre réseau est avant tout un réseau de franchises, ça c'est très clair, hein, puisqu'on a environ, comme vous disiez, 80 agences, hein, 83 à ce jour, et que là on a 8 succursales. Alors comme historiquement certaines sont importantes et se sont développées et ont continué à se développer, elles pèsent un poids assez important, hein, de plus de 20% dans le réseau en termes d'activité, donc le chiffre d'affaires. Néanmoins, la stratégie de développement de Babichou est avant tout une stratégie de franchise et de multifranchise. Donc la couverture du territoire n'est pas atteinte, bien au contraire.
Oui.
Hein, puisqu'on vise les 100 agences l'année prochaine, et ça fait un moment que c'est des choses qui ont été dites, hein, il y a déjà 2-3 ans, et on les fera. J'espère
ouais.
qu'on dépassera, mais c'est pas terminé, puisqu'on a vu qu'on avait aussi des relais de croissance dans des zones, dans des villes moins importantes, où il y a peut-être moins de concurrence, hein, l'indice de pression concurrentielle est moindre, mais en revanche, on a encore beaucoup de familles finalement à toucher. En ce qui concerne l'équilibre, je pense qu'il existe parce qu'il y a une bonne perméabilité finalement entre même les salariés de succursales, les salariés de franchisés peuvent se retrouver à des formations qu'on organise,
oui.
des formations métiers ou des formations sur d'autres soft skills ou autres. Et là, on a un vrai échange aussi avec des collaborateurs qui peuvent partager leur quotidien, peu importe qu'ils soient en franchise ou en succursale. Ce qui est différent, par contre, c'est le responsable d'agence et le franchisé, même s'ils ont chacun la responsabilité d'évolution, du développement de leur activité, c'est sûr qu'un franchisé, c'est son entreprise indépendante.
Oui, voilà. Il n'a pas pris la succursale, il n'y a pas la notion de risque.
Alors,
dans une
succursale, il y a moins la notion de risque, forcément, puisque c'est nous qui le portons en tant qu'entreprise. Qui détient les succursales. Néanmoins, je vous cacherai pas qu'on aime bien les salariés intrapreneurs.
Oui, oui. Hein,
on est particulièrement intéressés par ces personnes-là. Et on leur apprend, je pense, en toute modestie, à le devenir.
Certains deviennent franchisés.
Et certains deviennent franchisés. Alors, d'accord. J'ai pas mal de demandes en ce moment.
Ah oui.
Alors, il faut que je reconstitue après les équipes en interne. Oui. Donc, c'est un peu aussi quelque chose à préparer, mais oui, il y a des projets qui vont se faire, je pense.
D'accord.
C'est très bien.
C'est intéressant. On s'est rencontrés par téléphone, mais quand j'ai pris contact avec vous, en fait, c'était suite à la lecture d'un article ou d'une interview auquel vous aviez répondu, mais c'était par écrit cette fois-ci. Et j'ai été assez frappée par ce que on appelait le mode collaboratif, qui est chez vous quelque chose de très important et qui est un mode de management chez Babichou Service. Je pense que vous incarnez cet esprit de collaboratif.
Alors, tout à l'heure, on parlait de confiance. Hein, donc, un réseau de franchise, il va se développer sur un socle solide qui est celui de la confiance, pour moi. Et donc, on peut pas tout contrôler quand on a un réseau de 80 agences. Au bout d'un moment, on a des relais. Et ces relais, on les a trouvés, bien sûr, dans notre animation réseau au départ, hein, puisqu'on a plusieurs personnes qui s'occupent de l'animation réseau et qui sont au plus près des franchisés. Donc, que ce soit par des visites sur le terrain, que ce soit par des ateliers régionaux où chacun peut échanger sur ses pratiques, que ce soit aussi, bien sûr, j'en parlais, par les formations qu'on propose. Néanmoins, on a trouvé aussi intéressant de pouvoir confier à nos franchisés, surtout les plus expérimentés, en tout cas ceux qui s'étaient développés de manière très rapide et harmonieuse, ou pas forcément très rapide, mais en tout cas de manière très importante, de devenir des parrains de franchisés qui rentrent dans le réseau. Donc,
d'accord,
ça, c'est systématisé depuis déjà plusieurs années. Donc, ils ont un rôle qui est pas forcément, défini par des visites précises, mais un rôle d'accompagnement, de tuteur, qui ne se substitue pas au rôle des animatrices ou des animateurs, mais qui apporte, je pense, quelque chose en plus, puisque là, c'est directement un entrepreneur qui parle à un autre entrepreneur.
Oui.
Et au-delà de ça, on a même été plus loin, puisque lors d'une convention des années précédentes, on a aussi mis en place des ambassadeurs. Et là, les ambassadeurs, sur une région donnée, vont pouvoir animer aussi à leur façon leur zone, en par exemple aussi mutualisant des actions de communication, permettant aussi l'organisation de rencontres, et peut-être avoir cette prise de recul qui est intéressante aussi pour les autres entrepreneurs, donc sur ce qui se passe au niveau régional, les manifestations auxquelles on peut aller ensemble,
oui,
se dédoubler, voilà, et pourquoi pas aussi des prix d'entreprise à essayer de briguer ensemble, voilà. Donc tout ça, c'est très important.
En fait.
Il y a une entraide, voilà. Tout ça, c'est très important. Et cette notion de collaboratif, on continue à la pousser. En fait, on peut avoir différentes phases de développement dans un réseau. Aujourd'hui, je pense que notre réseau, il est à maturité,
ouais,
même si, bon, je pense qu'en tant que franchiseur, même nous, on apprend, et moi la première, on apprend tous les jours. Et c'est ça qui est formidable, vous voyez, avec la franchise. C'est que, finalement, vous avez deux métiers. Vous avez votre métier initial, bon, moi, c'est la garde d'enfants, le service,
ouais,
à la personne. On a vu quelque chose de processé, qui continue à évoluer pourtant. Et le métier de franchiseur, que j'ai appris. Je ne le connaissais pas,
ouais,
soyons clairs. Voilà. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, ça va vous permettre aussi de vous poser des questions que vous ne vous seriez pas posées si vous étiez uniquement avec votre entreprise ou votre succursale, parce que le réseau de franchise participe de votre nécessaire évolution.
Si vous Quelle est la pas... principale question que vous vous êtes posée, par exemple
Au moment où on est passé en franchise?
Oui. En tant que
qu'est-ce... Ah bah, au tout début, c'est est-ce que ça va marcher dans une autre ville? Ça, on a
oui.
dit oui.
Oui.
Et puis après, c'est est-ce qu'on va réussir à amener tout le monde au même niveau? Ça, c'est une vraie préoccupation. Parler de collaboratif, c'est pourquoi est-ce que j'ai des franchisés qui réussissent au début très bien et d'autres qui mettent du temps, plus de
d'accord.
temps. Et ça, c'est une réalité. C'est pas la peine de, voilà.
Oui.
Parce que la franchise est basée...
Et ça, on n'explique pas, c'est pas uniquement
alors,
le process.
On l'explique, si, parce qu'on l'explique grâce à l'accompagnement. Et on l'explique en travaillant sur les ressorts de motivation, hein. C'est pas nouveau. Les ressorts de motivation des gens, on se rend compte qu'il faut pas se tromper non plus entre chercher à développer son entreprise, la faire marcher, se rémunérer, bien en vivre.
Oui.
C'est une démarche normale d'entrepreneur. Et chercher, par exemple, peut-être pour certains, un statut.
Oui.
Et là, il faut faire attention. Parce qu'il peut y avoir des illusions, finalement. Parce que un statut, c'est pas ça qui va vous faire vivre.
Oui.
Voilà. Hein, ça fait bien, mais c'est pas ça. Donc, notre rôle, au moment où on choisit aussi les franchisés, ou on s'auto-choisit, hein, encore une fois, rappelons cette idée d'équilibre qui m'est très chère, au moment où on se choisit, il faut être sûr que les raisons pour lesquelles on rejoint une franchise sont suffisantes. Mmh. Évidemment, développer son entreprise et la mener au plus haut.
Oui.
Voilà. Et ça, c'est important de pas se tromper sur ce choix-là, parce que pour avancer, la marque et le réseau ont besoin de cet état d'esprit. Et ça, c'est des éléments sur lesquels on continue à beaucoup travailler. On a des démarrages qui sont encore plus rapides qu'il y a quelques années, donc c'est formidable.
Oui.
Je suis admirative de tous ces franchisés qui se débrouillent tellement bien. Et ça ajoute à notre motivation, à ma motivation. Voilà. Mais très important, est-ce que on est bien tous en phase sur ce qu'on veut faire de notre entreprise? Et c'est pour ça qu'on a l'occasion d'en parler souvent ensemble.
Oui, et vous parliez de convention, c'est quelque chose que vous faites plusieurs fois par an, ça réunit tout le monde, ou c'est par région, ou c'est les deux? Comment vous organisez?
Alors c'est les deux. En fait, Babichou, on a très très vite fait des conventions. Bon, je pense qu'on a besoin de se voir. C'est tout aussi simple que ça.
Oui.
Et je dis on parce que moi j'ai besoin de voir mes franchisés.
Oui.
Peut-être que certains ont besoin de me voir. Je pense pas que ce soit un besoin vital, mais en tout cas, c'est important de pouvoir échanger. On se voit donc deux fois par an au niveau national, on va dire. Certaines conventions même permettent à certains salariés, responsables d'agence des franchisés ou nos responsables d'agence de venir également. On a notamment fêté les 20 ans de la marque. On est tous partis à Madère. On part aussi dans des endroits sympas.
Ouais.
On est partis au Portugal Sud, à Marrakech. Enfin bon, au-delà. Alors, j'aurais dit, c'est pas une agence de voyage, quand même, Babichou, parce que ça commençait à être un peu... voilà, c'est quoi la prochaine destination? Voilà. Donc, pour recentrer un peu les choses, on a fait des universités d'été aussi, l'été dernier. On a ouvert ça.
Ah ouais.
Donc là, c'était deux jours de travail sur des ateliers plus... plus métier, voilà.
Donc plus sur comment on gère en fait une agence ou comment on
bah alors là,
gère
c'était
l'accompagnement
des thèmes,
de famille, par exemple.
Non, ou... par exemple là c'était des thèmes sur le pilotage d'agence. Vous voyez,
d'accord.
C'est très important. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on fait là dont je suis assez fière pour les franchisés et pour nous, c'est que on a réussi à monter des formations piloter mon agence et des ateliers de travail notamment avec notre réseau d'experts comptables. Où tout le monde a communiqué ses chiffres. Bon, c'est contractuel, dans un réseau de franchise,
oui.
On doit communiquer ses chiffres. Et nous, on a fait l'effort de les exploiter, ces chiffres. Donc,
d'accord.
De travailler sur tous les comptes de résultats et d'en sortir des tableaux de bord, finalement, qui sont nos outils de pilotage au quotidien. Et de regarder quels étaient les indicateurs, si les indicateurs du réseau étaient à peu près similaires d'un niveau d'agence à l'autre, parce qu'évidemment, en fonction de son développement, c'est pas forcément la même chose. Et c'était très intéressant, et je crois que les franchisés ont beaucoup apprécié. Et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de réseaux qui arrivent à le faire. Et il faut vraiment une grande volonté de collaborer pour revenir sur l'aspect collaboratif. Et même si parfois on a senti certains freins de certains, finalement après, c'est souvent ces personnes-là qui nous demandent « je peux avoir les chiffres ?»
Oui.
Alors évidemment, on donne pas les chiffres de chacun hein, au niveau financier, mais on donne des éléments de comparaison qui permettent de se situer. C'est très important de savoir où on en est.
Oui.
Ça ajoute aussi à sa motivation à continuer à se développer.
Tout à fait, on peut...
Et à corriger certains aspects qu'on avait un peu oubliés dans le savoir-faire ou qu'on fait évoluer ensemble.
Mmh. Sur cet aspect aussi de gestion d'agence, vous avez un service d'avis client, plus que pro, je crois, c'est ça?
Mm-hmm, tout à fait.
Comment on peut percevoir toute cette fragilité des parents, hein, de confier leurs enfants, on est parents, maman de surcroît, donc peut-être qu'on a encore un peu plus de sensibilité à laisser ses enfants quand ils sont tout petits à des personnes. Donc j'imagine que l'avis client est essentiel et qu'on peut avoir des retours un peu peut-être un peu négatifs. Comment les franchisés perçoivent ça? Est-ce que ça les trouble? Est-ce qu'ils sont formés à répondre? Comment on gère ça?
Alors, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'on ne peut pas... on peut pas mener une société... en tout cas, on ne peut pas rendre un service si on ne peut pas s'appuyer sur ce que pensent les autres utilisateurs du service.
Oui.
Donc, on a depuis plusieurs années déjà mis en place cela. Et donc, lorsque les franchisés intègrent le réseau dans la formation d'intégration, qui dure une quinzaine de jours, il y a également une demi-journée qui est consacrée à l'utilisation ou l'apprentissage pour certains. C'est surtout l'utilisation des réseaux sociaux, lesquels on utilise avec notre marque, notre enseigne. Et plus globalement, comment on va gérer effectivement... les interactions avec les internautes sur les réseaux sociaux ou par les avis. Voilà. Alors les avis clients aujourd'hui, ils sont très demandés par le réseau et très publicités par le réseau. Ça fait partie justement des process de vente que d'aller demander après à un client au bout de quelques semaines de mise en place du service, parce que nous, c'est un service qui s'évalue sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc comment il a pu apprécier le contact avec la marque, l'accueil, voilà, bien sûr, la mise en place du service et le suivi, parce que ce qui va nous différencier justement de simples marketplaces ou de simples plateformes de mise en relation, c'est le fait qu'on ait des agences de proximité. C'est très important. On a une vraie valeur ajoutée, à savoir que des clients ou des intervenants peuvent venir nous trouver en agence.
Oui.
Et sont suivis par toujours les mêmes personnes. Donc c'est très important. C'est ça qui va donner du sens à la relation et c'est ce qu'on retrouve dans les avis.
D'accord.
J'ai été très content de pouvoir être suivi par un tel. En cas de remplacement ou de garde de dernière minute, parce que vous savez qu'on gère des gardes sous moins de 3 heures, parfois.
Oui.
Hein, en urgence ou en demande de confort au sens de sortie, nécessité ou de réunion qui se prolonge, par exemple. On sait le faire. Partout
D'accord.
en France. Donc les avis clients, ils font partie de notre quotidien et on sait même un outil de vente. Puisque dans chaque agence, vous avez à l'entrée le livre d'or, les derniers avis obtenus. Il n'y a pas de filtre, puisque le système en place avec Puisque Pro prend tous les derniers avis. Donc on est obligé d'avoir une grande confiance dans l'outil, de bien le connaître, et surtout d'expliquer aux clients, je pense, l'importance qu'ils ont à parler du service. Et s'il y a une expérience un peu moins bonne, avec des points de vigilance, ça nous permet d'évoluer une fois de plus. Et on le voit vraiment comme ça.
D'accord.
C'est qu'est-ce que je peux faire de mieux pour rendre service à mon client. Donc effectivement, après, sur le dialogue avec les internautes, sur il y a quand même un apprentissage, il y a des choses qu'on fait. On écoute toujours les besoins du client ou du prospect ou de l'intervenant, parce que parfois ça peut être aussi des avis d'intervenants,
oui.
On travaille là-dessus, qui sont pas contents parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés, par exemple.
D'accord.
Là, pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés? Parce que leur niveau de compétence ou leur niveau de relationnel ne permettait pas un accord avec nous, tout simplement.
D'accord.
Et donc, parfois, ça peut arriver que certains disent qu'ils sont pas contents. Et parfois, ils utilisent les réseaux sociaux pour ça.
Oui.
Donc, à nous de savoir gérer ça aussi.
D'accord, très bien. Et par rapport justement à ces intervenants, y a l'enjeu, j'imagine, de la sélection et puis de la formation. Vous avez un élément de formation vis-à-vis de tous ces personnes qui interviennent dans les familles?
Voilà. Alors, bien sûr, la sélection, on en a parlé au niveau des process, on va pas détailler ça aujourd'hui, mais on s'emploie à leur proposer des formations régulières, que ce soit des formations par exemple sur les gestes de premier secours, des formations sur la nutrition, des formations sur l'animation, l'animation d'activités pour les enfants. On a d'ailleurs sorti un service aussi dédié à ça. Et au-delà de ça, on est très fiers dans le réseau d'accompagner plusieurs centaines de jeunes chaque année à la formation du CAP AEPE, accompagnement éducatif petite enfance.
D'accord.
Donc c'est très important parce que ça permet donc aux familles d'avoir des jeunes qui sont dans les familles sur toute l'année, puisque le matin elles sont en cours.
D'accord.
Ils ou elles sont en cours et l'après-midi ils peuvent aller chercher les enfants à l'école, à la crèche ou le mercredi. Donc ça c'est important. Et donc c'est une démarche qui a beaucoup de sens pour nous parce qu'elle participe aussi de l'insertion professionnelle de jeunes qui sont pas forcément des jeunes qui sont partis avec les bagages les plus consistants, on va oui. dire. Parfois ce sont des jeunes qui sont déscolarisés, qui ont un peu plus d'espoir. Et donc le fait de tout de suite mettre en œuvre les compétences qu'ils apprennent en cours dans des familles, leur permet d'avoir un projet.
Oui.
Et parfois l'année d'après, même souvent, ils restent pas forcément avec nous parce que ils peuvent aussi avoir envie de continuer leur parcours dans d'autres domaines, en garde collective ou autre. Mais au moins, on leur a donné ce tremplin et je suis très fière au nom du réseau que Babichou Service donne le tremplin comme ça chaque année.
Alors comment vous avez organisé ça? C'est en accord avec des CAP? Comment ça marche?
On a des accords avec des centres de formation en fait, oui. Avec plusieurs centres de formation un peu partout en France. C'est quelque chose sur lequel on travaille également avec notre fédération, la FESP.
Oui.
Dont je suis administrateur et oui. donc ça me paraît normal que dans notre rôle on travaille aussi sur les parcours professionnels, donc des intervenants, mais aussi de nos collaborateurs. Ça, c'est encore autre chose.
Bien sûr, oui. Par rapport à cette fédération, l'enjeu du service à la personne est parfois un peu mis en danger par des choix politiques. On parle de déduction fiscale en plus, en moins. Voilà, c'est un sujet qui revient assez fréquemment. Le rôle de la fédération est effectivement de défendre ça. Récemment, vous avez gagné un élément dont je vous laisserai parler parce que rien que le terme, je n'arrive pas à le prononcer, sur la nouvelle loi de finances. C'est un enjeu majeur pour vous, de la profession, ce risque politique?
Alors, on est un secteur qui reste jeune par rapport à, bien sûr, des secteurs industriels ou d'autres services. Néanmoins, je pense qu'on est tout à fait légitime et qu'on a gagné notre place. On parle, par le biais de notre fédération, notamment la FESP, on est très très souvent et en permanence finalement reçu par nos différentes instances, aussi bien au niveau du gouvernement que des assemblées et évidemment du tissu local et territorial. Donc ça, c'est très important. En effet, on a pu avoir parfois quelques avancées reculées sur l'environnement réglementaire, mais aujourd'hui je crois que tous les pouvoirs, tous les gouvernements s'emploient à confirmer le rôle essentiel qu'on joue. On a vu le rôle d'intégrateur aussi en oui. termes professionnels et social. Et comme vous le disiez justement, pas plus tard qu'il y a moins d'une dizaine de jours, a été votée la contemporanéité du crédit d'impôt. On peut faire plus simple en disant le crédit d'impôt immédiat, hein, voilà. En gros, qui va faire que les couples, ou les personnes en général qui font appel, alors je pensais aux couples par rapport aux familles, mais pas que, mais les gens qui font appel aux services à personnes, notamment la garde d'enfants avec Babichou Service, vont pouvoir tout de suite bénéficier du remboursement. Ils vont même pas faire l'avance de frais en fait, hein, par rapport à la partie qui était éligible au crédit d'impôt. Donc ça, c'est une avancée importante.
Oui.
On a été suivi puisque c'est la FESP qui a lancé cette initiative il y a déjà plusieurs années. Donc c'est un dossier qu'on a défendu, qu'on est très fiers d'avoir fait aboutir. Et alors il faut savoir qu'en Suède, quand ce projet a été lancé, puisqu'ils ont ils l'ont fait eux, il y a eu 30% de gains de croissance d'activité. Donc
d'accord.
C'est une formidable opportunité, voilà, pour de nouveaux entrepreneurs aussi, hein,
oui.
de savoir que non seulement le secteur se porte bien, on viendra peut-être sur des éléments de croissance, mais également on a quelque chose de très intéressant où on a des nouvelles populations qui vont pouvoir faire appel à nos services plus facilement. Et je pense aussi avoir des niveaux d'activité, des volumes d'activité plus importants au niveau de certaines familles. Voilà.
Donc justement, par rapport à cette croissance, vous me disiez, on a envie d'avoir au moins 100 agences, ce que vous avez sans doute atteindre en 2020. D'autres voies, d'autres croissances, c'est quoi l'atout de Babichou Service, le principal atout de Babichou Service, et qui fera que demain, il deviendra l'interlocuteur incontournable, qu'il est déjà dans certains coins, mais qu'effectivement, qu'il deviendra l'acteur incontournable de la garde d'enfants?
Ben aujourd'hui, l'enjeu, c'est de continuer à proposer nos services avec la meilleure représentation au niveau local, hein, la meilleure capillarité. Maintenant, on a déjà aussi un enjeu d'innovation permanente et on a développé récemment un nouveau service qui s'appelle les mercredis découvertes, donc qui nous permet d'être en plus proche d'autres besoins auprès des familles, des besoins d'animation, des besoins d'atelier à la maison, parce que les parents sont désireux d'avoir d'autres activités pour la prise en charge de leurs enfants. Donc ça va être des ateliers autour du théâtre, de l'anglais, de la cuisine, plein de choses qui se passent toujours à la maison, puisqu'on est une société de garde d'enfants à domicile. On propose aussi des offres d'animation de type anniversaire, par exemple. Et donc ça, c'est très plébiscité. Après, plus globalement, l'enjeu, bah écoutez, il est aujourd'hui national, parce que, comme je vous le disais, on a encore énormément de zones qui ne sont pas exploitées. On a une croissance de 27 à 30% là sur cette année. Donc on a terminé le mois de septembre avec 30% de croissance. Donc je pense qu'en final, on va être sur plus un trend de 26-27%, ce qui est déjà extraordinaire. extraordinaire, mais parce qu'on le souhaite et parce que c'est ce qu'on a prévu et qu'on continue à être dans ces traînes-là. Après, on a déjà des demandes pour se développer à l'international. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est le contexte réglementaire, l'adaptabilité du concept.
Quelque chose que vous aimeriez, en fait.
Alors, on a des demandes. Après, on a des demandes sur l'Europe, très souvent. On a même eu des demandes sur d'autres pays, enfin, d'autres continent. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais quand même finir, en tout cas continuer à donner l'impulsion qu'on a, continuer cette impulsion sur ce rythme-là, et puis regarder de manière très complète en quoi notre concept peut s'adapter à l'international et faire sens aussi sur un marché.
Oui. Voilà, hein.
Puisqu'aujourd'hui, on est une solution très adaptable, qui correspond aussi aux nouveaux modes de vie, aux horaires atypiques, à un mix entre les gens qui travaillent chez eux, les gens qui confient leurs enfants pour quelques heures à la garde collective ou tout simplement à l'école, puisqu'on intervient beaucoup sur les sorties ou les entrées école. On intervient aussi sur les gardes d'enfants quand ils sont malades, on intervient sur des formes de... des gens qui ont des profils comme les infirmières ou les gens qui sont dans le spectacle, oui, les intermittents personne ne les accepte, ces gens-là. Oui, oui. Babichou les accepte. Voilà.
D'accord.
Donc typiquement, on a encore pas mal de relais de croissance, oui, mais on est très à l'écoute de ce qui pourrait être un nouveau relais de croissance, et ça peut être aussi en interne, sur le territoire national. On regarde aussi des cibles, on va dire, mais qui pourraient être compatibles avec notre implantation existante.
D'accord. On va arriver au terme de cet entretien qu'on aurait pu prolonger encore pendant très longtemps, mais c'est vrai qu'on s'était donné un petit format, donc on va arriver à ce terme-là. Je vais me permettre de vous poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez un petit rituel quand vous doutez?
Alors, bon, d'abord, je pense que le doute, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Je serais très inquiète si j'avais pas de doute. On a un rythme de travail qui nous correspond, hein. Je pense que c'est à soi de savoir ce qu'on peut donner dans sa journée, son entreprise. J'aime bien courir, donc je fais du running, voilà. Puis comme je suis un peu compétitrice dans l'âme, ça me correspond bien. On a même monté des équipes en interne là-dessus. Mais moi, je vais courir, certains matins, et après tout est clair et tout est net. Donc
oui,
c'est tout simple, en fait. Voilà, courir ou marcher, je pense que ça permet de remettre les idées en place. Et j'aime faire comme cela, voilà.
Vous dirigez seul, hein? Babichou Service, en fait, c'est...
Alors, je suis seule bon, en termes de direction au quotidien, mais je m'appuie énormément sur mes équipes, sur mes collaborateurs qui, pour certaines sont là depuis très longtemps, donc qui sont aussi des guides et de formidables aussi aides pour les nouvelles idées. Les nouvelles idées, on les trouve aussi chez les franchisés, hein, ça c'est oui. un point très important. Mais on a une équipe soudée, assez restreinte, mais agile. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup Claire pour cet entretien. J'ai été ravie de vous accueillir et ravie de cet entretien.
Merci beaucoup à vous.
Vous auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.